RCF. RCF, Fabrice Gironnet.
Vous êtes sur RCF, le dernier 18-19 en région, en tout cas pour cette semaine. Voici Alexis Claudretz.
Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier de la semaine, mais on peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine de lundi à vendredi 18h10 pour le magazine régional le 18-19 en Champagne-Ardenne. On va quand même regarder ce qu'il se passe ce soir. Ce soir, il y aura une page météo avec notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, qui est avec nous tout sourire. Bonjour Mélissa.
Bonsoir.
Dans le journal régional, on reviendra sur plusieurs actualités, mais c'est en cours en ce moment, à l'heure où l'on vous parle. Il y a actuellement au musée Rimbaud de Charleville-Mézières des manuscrits qui avaient été achetés par un généreux donateur en décembre dernier, le 8 décembre dernier. Ce généreux donateur a un visage, il est bien connu dans le département des Ardennes et même au-delà. Il s'agit de Pascal Urano, entrepreneur dans le bâtiment. Il a été aussi président du club sportif Sedan Ardennes lors de la fin des années 90, début des années 2000. Pascal Urano qui avait acheté plusieurs manuscrits dont il fait don à la ville de Charleville-Mézières et au musée Rimbaud. On l'entendra à l'intérieur du journal régional. Un extrait, vous le retrouverez plus complètement à l'intérieur du magazine de week-end à 11h et à 17h ce samedi avec Jean-Pierre Benoît. Dans quelques instants, on ira faire un tour du côté de Mayotte, droit du sol, les rideaux de fer dans la mer, des mots creux de Gérald Darmanin. C'est la chronique proposée par le professeur Jacques Cohen. On ira aussi faire un tour à Mazerny, c'est une commune du département des Ardennes. Anoudar en est la mère. Elle nous parle ce soir avant le journal. Et puis, on est en période du carême, donc nous serons avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui donnera quelques rendez-vous à cocher dans l'agenda pour les prochains jours. On parlera aussi du carême du père Joël Morlaix dans l'espace missionnaire de l'Abri dans le diocèse de Chalon. Et puis nous irons à la rencontre de Nicolas Lemoine, nouveau président de la jeune chambre économique de Chalon-Aglo. Voilà pour le sommaire de ce 18-19 en Champagne-Ardenne. On ouvre ce vendredi, sans surprise, par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Et on va faire un petit flashback de quelques jours. On va aller sur l'île de Mayotte, où était en déplacement d'ailleurs Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le dimanche 11 février dernier. Que s'est-il passé sur l'île de Mayotte, Jacques Cohen ?
Eh bien, des annonces tonitruantes de Gérald Darmanin, qui sont surtout à destination métropolitaine, car sur place, tout le monde sait que ces mesures sont de purs slogans. Parler d'une part d'abolir le droit du sol, d'autre part de mettre un rideau de fer dans la mer, nous allons voir dans un instant que c'est totalement inadapté et sans efficacité. D'abord pour le droit du sol, je vais peut-être vous surprendre, mais vous apprendre que ça fait déjà depuis 2018, sous Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qu'il a été aboli. Tout simplement, il a été réclamé que le droit du sol ne fonctionne que si le parent est sur le sol français depuis au moins 3 mois, ce qui n'est pas le cas des dames qui arrivent pour accoucher. Les chiffres sont d'ailleurs contestés, mais d'une façon inadaptée là aussi. Il y a effectivement 70% des parturientes à Mayotte qui sont étrangères et 50% des pères. Le décalage entre les deux représente le trafic de reconnaissance de paternité illusoire permettant de garantir justement que l'enfant est un des deux parents français. Donc, le droit du sol, c'est de toute façon quelque chose d'aberrant parce que, de toute façon, les immigrés illégaux, ils le sont tous d'ailleurs à Mayotte, restent sur place. On est dans une situation où on a à peu près la moitié d'une population d'immigrés en situation irrégulière. Et on a non seulement cette population très pauvre venant des 3 autres îles des Comores, mais on a une deuxième génération, c'est-à-dire celle des enfants de leurs enfants, nés sur place et qui sont ces bandes de jeunes violents qui ont causé pas mal d'ennuis l'an dernier, qui coupent les routes, rançonnent, etc., issus des bidonvilles, qui par exemple élèvent des chiens d'attaque sauvages, parfaitement interdits d'ailleurs, sur les territoires français, lesquels s'attaquent aux tortues. Il se trouve que les plages de Mayotte sont parmi les lieux d'accouchement, si je puis dire là aussi, des tortues qui sont protégées, et que les chiens de ces voyous viennent les manger, donc mettent en danger une espèce protégée, sans que la gendarmerie n'ait consigne d'aller liquider ces quelques chiens vite fait bien fait, puisque de toute façon ils sont parfaitement hors la loi. Et tout ça parce que la situation locale est déjà extrêmement grave. L'avenir de l'île, si elle continue à rouler vers l'abîme et qu'on ne fait rien, l'avenir c'est la guerre civile, c'est le Congo, c'est le Rwanda. Ceux qui sont sur place vont vouloir faire la peau des voyous et des immigrés. Ce sera d'autant plus violent qu'ils sont très proches. Ce sont, comme toujours, les guerres civiles sont les plus sanglantes. Et les autres viennent aussi des Comores, mais avant. L'énorme bêtise, c'est d'avoir départementalisé le maintien de Mayotte dans la République française sans avoir de solution fiable concernant les trois îles. Parce que déjà, renvoyer les gens chez eux, c'est impossible parce que le gouvernement de Moroni n'en veut pas. Et ou bien on envoie des canonnières et on décide qu'ils sont débarqués par la force, donc on doit dans l'engrenage d'intervenir dans les Comores, ou alors tout simplement, le rideau de fer dans la mer est un slogan complètement stupide, parce qu'il peut être suivi d'aucun effet et qu'il aura donc l'effet contraire. C'est bien gentil de repérer les petits bateaux, les quoi ça, mais on ne va pas les couler en mer avec leur chargement. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de les avoir repérés? On va intercepter les gens, on va les ramener sur la côte chez nous, puis on va dire qu'on voudrait les ramener à la maison, mais que la maison n'en veut pas. Et donc le résultat sera politiquement encore plus désastreux. Alors il faut parler d'Anjouan, il faut parler de Moroni. Il faut bien voir qu'il y a un dictateur qui est entouré d'une garde prétorienne dont on se demande qui la finance, un état d'une grande pauvreté, que ce dictateur a réussi des intrigues dans l'Union des États africains, il en est même président ces temps-ci, avant que ça ne reparte de l'autre côté en Mauritanie par un système tournant. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé que le développement des Comores était une solution à la misère. Ceux qui ont joint le geste à la parole, parce que nous aussi, de la part à la France, ce sont, figurez-vous, les Chinois. Parce que c'est quand même très tentant d'avoir un pied dans le canal de Mozambique, et ils devaient avoir quelques irradiations, quelques arrière-pensées, mais ils ont quand même commencé par des choses tout à fait convenables, de faire des campagnes anti-paludisme, de financer un hôpital, et justement cet hôpital il a été pillé, tout simplement. L'idée qu'on aurait pu avoir nous aussi, c'est qu'il fallait mettre un hôpital avec des coopérants qui permettent de faire les accouchements là, dans de bonnes conditions et pas à Mayotte, eh bien les Chinois l'auraient essayé. Et la grande surprise, c'est que l'hôpital qu'ils ont construit, il a été pillé par les mafias et les quelques médecins du coin, destinés pour éviter qu'il y ait des soins gratuits pour toute la population, ce qui est un véritable scandale quand quelques personnes peuvent faire de l'argent sur le dos de la pénurie en soignant uniquement ceux qui sont solvables. Je pense d'ailleurs que les Chinois n'ont pas dû apprécier du tout, et ils n'ont pas eu fait de gesticulation, mais qu'ils s'en souviendront un jour ou l'autre. Le dictateur du coin a d'ailleurs été réélu pour la troisième, quatrième ou cinquième fois, je ne sais plus. Il arrive à faire mentir les sondages. Il devait avoir 18% d'après les sondages. Il a eu 65% au premier tour. Puis la commission électorale a quand même, dans un souci de rigueur, ramené l'échelle de la fraude à 57%. Donc tout ça, on peut en sourire, mais c'est d'ailleurs là où auparavant avait sévi Bob Denard et différentes cliques armées de mercenaires, ce qui fonctionne à nouveau de la même façon. Et on n'a pas de perspective de voir débarquer cet individu tant que, d'une part, il obtient des appuis dans les pays du Golfe, qu'il arrive aussi à un jeu d'équilibre sur le continent africain et que, finalement, on n'est pas prêt à employer les grands moyens pour s'en débarrasser parce que ça paraît que ce serait tout à fait colonial et très vilain de le faire dégager comme on faisait autrefois. Or, il n'y a pas de développement possible d'une île pauvre tenue par un système mafieux et ce genre de bandits si on ne commence pas par faire le ménage. Alors, trouver des forces politiques et des alliances internationales qui veulent le faire, c'est pas si simple, mais ce n'est pas impossible parce que c'est la seule solution. Pour éviter que Mayotte soit submergée, il faut qu'il y ait un développement des trois îles. Et ça coûte d'ailleurs moins cher que d'entourer Mayotte, soi-disant rideau de fer. Mais tant qu'on ne fait pas ça, le reste des mesures sur Mayotte est sans espoir, et l'évolution vers une catastrophe avec la guerre civile et des massacres me paraît hélas la chose la plus probable, parce qu'on a déjà des Français résidents, donc qui font des barrages et un début de violence en écho à la violence des immigrés, des Comores, dans l'île de Mayotte, et je pense que d'ici un an, deux ans, trois ans, je ne peux pas dire exactement quand, l'étape suivante sera des opérations encore plus violentes avec des morts et une guerre civile, car effectivement, il y a deux façons de régler la question. Soit que les Comores se développent paisiblement, soit que les gens soient tués quand ils sont à Mayotte, ce qui les oblige à repartir. Ce qui malheureusement paraît une solution qui va être envisagée par d'autres sur place. Et à ce moment-là, comme dans toutes les guerres civiles, non seulement c'est sanglant, mais on ne sait jamais trop qui va gagner. Peut-être les bandes de voyous des bidonvilles, ou ça peut être les citoyens français. Mais dans les deux cas, ce sera tout à fait sanglant.
Jacques Cohen, vous nous avez présenté des choses qui ont été annoncées, des mesures qui ne vous paraissent pas être des solutions. Qu'est-ce que l'on peut faire à Mayotte finalement ?
À Mayotte même, paradoxalement, pas grand-chose. Je vous ai dit, l'essentiel se joue avant. L'essentiel se joue dans les trois autres îles des Comores et la nécessité d'obtenir, y compris en finançant, qu'il puisse y avoir un développement qui permette de dire aux gens qu'ils ne vont pas sur l'autre île qui n'est pas chez eux, qu'ils peuvent vivre de façon convenable au pays, dans les trois îles qui ont voulu leur indépendance il y a maintenant quelques dizaines d'années.
Eh bien, merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé sur ces annonces de Gérald Darmanin le dimanche 11 février à Mayotte. Et puis, pour avoir plus d'informations et un développement encore plus complet, on donne rendez-vous sur votre blog, jhmcohen.com. À très bientôt, professeur.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Direction Mazerny désormais, dans les Ardennes ce soir, avec Anoudar, la maire de la commune, qui nous parle, c'est au micro de Jean-Pierre.
Anoudar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il est vrai que à chaque fois qu'on reçoit un maire sur notre antenne, on est heureux qu'il nous présente sa commune, on va aussi parler de lui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Mazerny? Combien d'habitants à Mazerny et où se situe Mazerny dans le département des Ardennes?
Alors, Mazerny se trouve au centre du département des Ardennes, d'après le calcul de l'IGN. Son point se situe à 100 mètres du monument de la Crête-Mouton, proche de la commune de Ballon. L'altitude moyenne est 233 mètres. Mazerny est situé sur le versant sud-est de la ligne ardennaise du partage des eaux. On est entre les eaux Rameuse et Seine-Normandie. Et la limite se trouve à la Crête-Mouton, sur vraiment les crêtes.
Alors là, on sait très bien où vous êtes. Hein. On a bien compris, Madame Houdar. Vous êtes très précise. Et cette commune de Mazerny, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, la population est de 126 habitants lors du recensement 2017, comprenant un tiers de personnes au-dessus de 65 ans. Donc, nous sommes une population relativement vieille. Au niveau des enfants de la naissance à la primaire, on en a 9. On a 5-6 dans le secondaire et après, voilà, ça part un peu dans tous les sens.
Mais vous êtes maire de Mazerny depuis seulement un mandat, Anoudar, mais vous étiez quand même au conseil municipal, certainement avant.
J'ai pris en cours de mandat avant la place d'adjoint, voilà, suite à une démission. Voilà.
Et vous êtes maire depuis à peu près 3 ans.
Voilà, avec le Covid, ça a été un peu compliqué au départ. Avec les, on avait l'ancien maire, on n'avait pas encore les nouvelles élections, puis avec toutes les restrictions, ça a été un peu compliqué, la mise en route. Voilà.
Alors, vous avez souhaité d'ailleurs, vous le disiez en aparté, vous consacrer pleinement à cette mission de maire, pas avoir une autre activité. Il y a beaucoup de maires qui ont des activités professionnelles dans les communes.
Oui, mais bon, si vous êtes votre activité proche de la commune, ça va. Autrement, vous n'êtes pas au fait de tout ce qui se passe. Hein, même si on est des petits villages, il faut quand même suivre ce qui se passe. Et bon, on ne peut pas toujours trouver des solutions, mais si on n'est pas là, on passe à côté.
Absolument. Le maire, il est très souvent sollicité. La maire de Mazerny. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos habitants? Ils vous sollicitent, ils s'interrogent? Bon, c'est souvent pour des questions aussi personnelles. Hein. La maire ou le maire, il est parfois un confident.
Pour tout, pour des problèmes personnels qui n'arrivent pas. Alors, avec l'informatisation, nous, ayant beaucoup de personnes âgées, ils ne savent pas aller, comment tel service, comment ils sont, c'est des répondeurs, vous tapez un, vous tapez deux, ça ne leur va pas. Donc, ils viennent voir comment on peut trouver. Alors, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Ou devant un problème, ils ne trouvent pas de solution. Alors,
mais heureusement d'ailleurs que le maire est là dans ces conditions-là, parce que c'est la seule personne élue, responsable, politique on peut dire, hein, même si c'est politique au sens large, à avoir comme interlocuteur. Sans ça, on se retrouverait. Faites le 1, faites étoile, faites 2.
Oui, et encore, on parle à des machines. Et c'est un contact, voilà, on va dire. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui, et même suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu isolés.
Voilà. Mais est-ce que, bon, pour l'instant, ça n'est peut-être pas arrivé, mais justement, à la suite du Covid, est-ce qu'il n'y a pas des gens, un jour, qui viennent s'installer, qui viennent dire, bon, au lieu d'habiter Charleville, je vais habiter Mazerny, c'est peut-être moins cher, s'il y a un peu une maison disponible, c'est peut-être plus pratique.
Alors, nous avons des avantages, mais nous avons des inconvénients. L'avantage, on est à 4 km de l'autoroute. On a 5 km de Poitiers-Rond où il y a une gare, tous les commerçants et tout. Nous n'avons plus rien au village, plus rien du tout. Donc, il faut absolument une voiture. Si vous avez des enfants pour l'école, pour les activités, il faut toujours, toujours transporter. Donc, ça, c'est un frein.
Et puis, il faut savoir s'organiser. On ne s'organise pas dans un village comme dans une ville. Dans une ville, on sort, on va à la pharmacie à 20 mètres, ou on va à la banque. Là, il faut prévoir, il faut tout s'organiser quand même.
pour le manger comme pour le reste. On a bon, on a un boulanger qui passe presque tous les jours, sauf un jour dans la semaine. C'est le seul commerçant qui passe dans le village. Le reste, il faut se déplacer.
Bon, c'est vrai, il y a 126 habitants, mais avez-vous des projets en cours ou des projets à court terme, à moyen terme, voire à long terme pour la commune de Mazerny? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent?
Alors, c'est plus le maintien en état, on va dire. À l'heure actuelle, bon, on a un problème sur l'église extérieure, il y a des arbres, et on a deux monuments aux morts, un dans le village et un sur la crête Mouton, qui fait suite à une bataille qu'il y a eu à la guerre 40, qui sont en train de force abîmer. Donc on est en train de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on aura comme subvention.
Alors il y a aussi, bien entendu, aujourd'hui les communautés de communes. Est-ce que le maire est encore, entre guillemets, je pose souvent la question, le patron dans la commune? Enfin, le patron au sens large. On a vu que vous rendiez beaucoup de services. Il a quand même toujours un rôle essentiel, le maire.
Ah ben, on a toujours le dernier mot. On peut toujours refuser. Enfin, si on veut, on perd de plus en plus de compétences. On a de moins en moins d'argent qui arrive, mais bon, ben on fait avec les moyens. Hein. Nous sommes 126 habitants par rapport à des villes importantes et tout ça. C'est vrai qu'on peut pas avoir la même chose.
Mais la proximité de l'autoroute, vous l'avez rappelé, de l'autoroute A34, on sort à Voynic pratiquement pour aller chez vous.
On sort à Poitéron.
Oui, oui, tout à fait. Ou d'ailleurs, il y a là une zone aussi pour le covoiturage, éventuellement.
Oui. Mais on peut pas, même en vélo, c'est trop dangereux. Il y a la côte de la bascule, tout ça, c'est trop dangereux. Donc, c'est toujours la voiture. Voilà.
Oui, et la côte de la bascule, pour l'avoir empruntée quelques fois lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose à grimper. Hein.
Voilà. Voilà.
Vous êtes souvent dans la mairie, vous allez quand même souvent dans votre mairie finalement?
La mairie, les gens, ils me rencontrent, ils me demandent, ils ont besoin, j'y vais, je me mets assez à disponibilité. Donc, c'est pas vraiment, il y a une permanence toutes les semaines, mais c'est un peu suivant les besoins.
Puis on vous contacte directement, tout le monde vous connaît, évidemment. Alors, il y a une question qu'on pose toujours à nos maires, qu'on remercie de Reims et du département des Ardennes. Est-ce que vous êtes une mère, M-A-I-R-E, heureuse?
Pour moi, on a pris l'engagement. Quand on prend l'engagement, on assume. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà.
Et puis, il faut dire aussi que cette proximité, dans toute communauté, vous avez des bons caractères, des mauvais caractères, des gens qui peuvent toujours rouspéter après le maire, des autres aussi qui vous félicitent. Donc, il faut quand même être, un peu psychologue, non?
Avoir surtout les épaules bien larges et puis ne pas se monter tout de suite dans les tours, écouter et voir après ce qu'on peut faire. Ne jamais aller tout de suite au clash.
Bon, écoutez, ça c'est une leçon de vie. Hein. Merci à Noudar de nous la rappeler. Et puis, sachez que sur RCF, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui concerne la commune de Mazerny, eh ben nous, on est les premiers et on sera là à vous donner l'antenne. Merci en tout cas à Noudar d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et quand Jean-Pierre conclut, on a envie de tout faire comme lui, on va reprendre ses expressions. Quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 16 février jusqu'au 17 mars, le musée de Saint-Dizier accueille une nouvelle exposition intitulée « Boucle temporelle, voyage temporel et mémoriel en Haute-Marne, découverte ». L'Ermitage des Amis de Saint-Valfroy organise la 9e marche populaire internationale ce dimanche. Des parcours de 7, 10, 15 et 20 km sont proposés aux marcheurs.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais on vous le disait dans le sommaire de ce magazine, l'actualité du jour, c'est lors d'une vente aux enchères le 8 décembre dernier, des manuscrits de Rimbaud qui avaient été achetés par un mystérieux donateur qui décidait de les offrir à la ville. Alors que depuis quelques minutes, la remise officielle est en cours au musée Rimbaud de Charleville-Mézières. Depuis ce matin, le visage de ce mécène est connu et ce n'est autre que l'entrepreneur ardennais Pascal Urano, extrait de ses confidences au micro de Jean-Pierre Benoît.
Disons que ça fait à peu près 20 ou 25 ans que j'imagine que la ville de Charleville et son territoire et les Ardennes ont besoin d'avoir un éclairage national extrêmement important et que le seul personnage qui est mondialement connu, c'est Arthur Rimbaud. Depuis 10 ans ou 12 ans, nous faisons notre communication institutionnelle à partir d'œuvres originales qui sont imprimées ici à Charleville sur des quantité extrêmement faible. Et lorsque nous avons vu cette vente chez Piazza et la qualité des éléments qui étaient mis en vente, on a imaginé assez rapidement qu'il fallait s'organiser pour pouvoir récupérer tout ou partie de produits de cette vente.
L'interview complète de Pascal Urano est à retrouver dans le magazine du week-end sur RCF France-Ardennes ce samedi à 11h et à 17h. Le musée Rimbaud est quant à lui gratuit tout au long du week-end pour découvrir les manuscrits offerts à la ville. Le musée de Saint-Dizier offre aux visiteurs une expérience artistique hors du commun. Depuis le 19 janvier, les boucles temporelles ouvrent son vortex, invitant chacun à plonger dans une fusion unique entre mémoire, poésie et photographie. Calixte, stagiaire à RCF Cœur de Champagne, nous convie à un voyage captivant au cœur de la Haute-Marne.
En traversant un portail spatio-temporel et vivre le passé de la Haute-Marne. Ce portail se trouve au musée de Saint-Dizier. Elle a débuté le 19 janvier. Vous pouvez encore y faire un petit tour, quand vous le souhaitez, mais pas plus tard que le 17 mars. Vous aurez la chance d'être plongé au cœur des photographies évoquant des lieux emblématiques de la Haute-Marne, la grotte d'Ambonville, le lavoir de Vignory et d'autres encore. C'est une exposition autour des textes d'Henri-Pierre Jeudy, sociologue et philosophe, originaire de la Haute-Marne. Ces textes sont mis en relation avec des photographies de Charles Poléchevic. Il parcourt Bruxelles depuis la fin des années 2000, immortalisant ainsi l'a priori banale, des concours de beauté pour animaux ou encore des champs de foire et autres. Le parcours débute à Ciré-sur-Blaise, explorant ainsi la mémoire personnelle et l'intime avec une bande sonore proposée par Didier Abissé. À noter sur vos agendas, le 13 mars à 15h30, des visites guidées gratuites et sans réservation seront organisées.
Ne manquez pas le vernissage de l'exposition à Temporel le 17 mars à 17h. Henri-Pierre Jeudy clôturera cette expérience et Didier Albissé orchestrera une performance théâtrale unique. Pour plus d'informations, 03 25 07 31 50. Un grand merci à Calixte, stagiaire en journalisme à la rédaction de RCF Cœur de Champagne pour cette exploration poétique de la mémoire au musée de Saint-Dizier. Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, s'est rendu dans l'Aube. Aujourd'hui, il a d'abord visité une entreprise de chaudronnerie à Bourguignon, puis l'association du Cœur au Travail à Bar-sur-Seine le matin, avant de visiter la Collégiale et le musée de la Résistance à Mussy-sur-Seine, puis le centre-bourg des Rissets l'après-midi. L'Académie artistique Sainte-Clotilde, collège privé art-études pour jeunes filles, ouvre ses portes ce samedi de 10h à 12h30 au 12 rue Jean-Jacques Rousseau à Reims. Attention, il faut s'inscrire pour pouvoir y accéder. On s'inscrit par mail à aacchampagne@gmail.com. Il est encore temps d'envoyer vos mails ce soir pour participer à ces portes ouvertes de l'Académie artistique Sainte-Clotilde demain de 10h à 12h30 au 12 rue Jean-Jacques Rousseau à Reims. aacchampagne@gmail.com. Ce dimanche, les amis de l'Ermitage Saint-Valfroid organisent leur 9e marche populaire internationale. À partir de 8h du matin, vous pouvez prendre le départ pour un des 4 circuits de 7, 10, 15 ou 20 km depuis l'abri du pèlerin à Margues. Luc Jonnet, président de l'association.
De façon à faire connaître ce site merveilleux qui est un site qui domine l'ensemble de la vallée de la Chère et qui se situe à la limite entre la Belgique, la Meuse et les Ardennes, cette pointe est des Ardennes, eh bien nous allons organiser une marche qui permet d'amener énormément de gens sur le site de Saint-Valfroid et le faire découvrir. Alors la 9e, bien sûr, nous avons les habitués, mais il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Et nous allons proposer donc des marches de 7, 10, 15 et 20 km qui leur permettent de découvrir eh bien tout l'ensemble de la région. Nous allons nous diriger vers la Meuse qui nous permet, nous, de promener les gens dans les bois pour découvrir cette flore qui commence à s'éveiller et tout particulièrement les personnages. Les personnages sont sortis avec ce réchauffement qu'il y a eu. Alors ne pas les cueillir pour leur permettre de pouvoir continuer à s'implanter sur le lieu où ils sont et de découvrir toute la beauté du site aux alentours de Saint-Valfroid.
Ouvert à tous contre une cotisation de 3€, l'idée est de partager un beau moment seul, en famille ou entre amis, mais toujours bien entouré. Luc Jonnet.
mais aussi alors cette sympathie qui existe parmi les marcheurs. Et si l'Église était à l'image des marcheurs, ce serait formidable. Tout le monde se salue. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de plus haut, de plus bas. Tout le monde est égal. Et lorsqu'un marcheur est en difficulté, tous les autres l'aident. Et c'est arrivé que malheureusement nous perdions des gens. Eh bien, on a mobilisé tout le monde pour essayer de retrouver ces gens de façon à les ramener sur le parcours parce que malheureusement ils étaient un peu dans les étoiles et qu'ils ont oublié de tourner. Il y a une formidable ambiance et c'est pour ça que c'est important que nous puissions organiser sur un lieu qui est aussi important que celui de Saint-Valfroid ces marches où il y a une véritable amitié qui se développe.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardennes. Rendez-vous dimanche à l'abri du pèlerin de Margut de 8h à 14h pour les marches de 7 et 10 km. Les départs se font jusqu'à 11h pour les circuits de 15 et 20 km. Il y aura aussi du sport avec les principaux clubs de sport collectif de la région. En basket, de nombreux matchs couperets sont au programme dimanche à 15h30. Le Champagne Basket affronte Vichy Clermont sur le parquet de Saint-Chamond en finale de Leaders Cup Pro B. Une victoire assurerait aux Champenois une participation au play-off du championnat à l'issue de la saison régulière. Autre rendez-vous à élimination directe que l'on a présenté hier soir, l'Étoile de Charleville-Mézières reçoit Pays de Fougères à l'Arena samedi à 20h en 8e de finale du Trophée Coupe de France. Le club breton est double tenant du titre. En Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo se déplacent dimanche à 16h30 sur le parquet de Landerneau pour le compte de la 16e journée. Toujours sur les parquets, mais en volet, cette fois, le leader de Liga, Chaumont, reçoit 7 dans le cadre de la 21e journée, samedi à 20h. Enfin, il y aura aussi du football ce week-end. Les hostilités pour nos clubs locaux débuteront samedi à 14h30 en D1 Arkema. Le Stade de Reims féminin se déplacera à Saint-Étienne. En Ligue 2 à 19h, 3 recevra Grenoble. Le Stade de Reims masculin recevra le Racing Club de Lens dimanche à 17h05 pour la 22e journée de Ligue 1. Avant de refermer ce journal, place à la météo, c'est avec notre stagiaire Mélissa Tavares. Mélissa, quelles sont les tendances pour ce week-end ?
Ce week-end, il sera enfin de retour notre cher ami le soleil, mais pour peu de temps. Samedi, dans les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne, il y aura un ciel très nuageux dans les villes comme à Rethel, Reims et Saint-Dizier. En Haute-Marne, de très belles éclaircies seront au rendez-vous dans les villes de Troyes et de Nogent. Puis, dans l'après-midi, les nuages partiront pour laisser place au soleil. Des températures assez fraîches seront attendues, au minimum 7 degrés et au maximum 19 degrés. Dimanche, retour des nuages dans l'ensemble des départements et l'après-midi, de la pluie sera attendue dans la totalité de la Champagne-Ardenne. Demain, nous fêterons les Alexis et les Bernadettes. Nous vous souhaitons une belle fête à tous et surtout à notre très cher journaliste.
Merci Mélissa, ça fait plaisir d'avoir cette petite pensée. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Tout au long des 5 semaines de carême, RCF vous propose régulièrement de retrouver des témoignages de prêtres, de religieux, de religieuses, de fidèles de notre diocèse sur leur façon de vivre cette période de 40 jours avant Pâques. Témoignage ce vendredi du père Joël Morlet, prêtre en retraite à l'espace missionnaire Brie, au micro de Christopher Fausten.
Père Joël Morlet, qu'est-ce que le carême pour vous ?
Eh bien, le carême, c'est ce qui nous prépare à la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection du Christ et la promesse de notre propre résurrection. Et donc, le carême, il est destiné à nous y préparer, à avancer vers cette lumière de Pâques, et donc à essayer de rénover en nous tout ce qui peut être signe de cette lumière qui nous habite déjà depuis qu'on est baptisé, et qui doit se développer de plus en plus au cours de notre vie. Donc le carême, c'est ce moment où nous essayons d'éliminer toutes les scories qui habitent notre cœur et nous empêchent de vivre vraiment dans cette lumière de Pâques.
Comment vivez-vous ce temps de carême, Père Joël Morlet ?
Eh bien, du coup, éliminer ces scories, c'est revoir un peu comment est notre vie, qui comporte, c'est le sens de l'aumône, de la prière et du jeûne, de renouveler ce qui concerne notre relation à Dieu, ce qui concerne notre relation aux autres et ce qui concerne notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'obstacles se créent dans ces relations. Et donc, le temps du carême, c'est un temps où on décide, ayant pris conscience des principaux obstacles à cette vie divine qui nous habite, à cette lumière de Dieu qui est en nous, eh bien, d'essayer de les éliminer. Ça peut être dans notre relation à Dieu, le fait que notre prière est insuffisante, que facilement nous en passons. Ce que je pense aussi, c'est souvent le manque de confiance en Dieu. Je le remarque notamment chez des personnes âgées où on perd confiance en Dieu. Dans la relation aux autres, ma foi, il y a bien des possibilités d'améliorer. Il y a notamment, je pense, des réconciliations à vivre, des pardons à donner ou des pardons à recevoir, une bienveillance et une attention aux autres renouvelée. Puis dans la relation à soi-même, eh bien, c'est résultat d'une mauvaise relation à Dieu, d'une mauvaise relation aux autres. On est habité de tendances mauvaises, de mépris, de rancune, d'orgueil, de volonté de puissance, d'un besoin trop surdimensionné d'être reconnu. Donc chacun voit dans sa vie ce qui obscurcit cette lumière de Dieu qui nous est proposée et que nous allons fêter à Pâques.
Et vous essayez de le transmettre, vous, en tant que prêtre en retrait du côté de l'espace missionnaire de l'Abri.
Pour les gens de Fère Champenoise, oui, puisque c'est moi qui vais présider pour la paroisse. Et que, avec le livret de carême qui est proposé, j'ai dit au cours d'une messe que les groupes qui se réunissaient, s'ils pensaient que ça peut leur être utile, ils fassent appel à un prêtre, pas forcément à moi. Ça peut être le père Janvier ou le père Denis, mais lui, il est trop occupé en ce moment par d'autres choses. Et moi aussi, j'étais disponible. Et donc, vous vous doutez, je suis déjà sollicité pour participer à un groupe de réflexion du carême sur ma paroisse.
Merci, père Joël Morlet.
Merci. Bon carême à tous.
L'ensemble de ces chroniques sont à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Et on continue de parler carême, entre autres, ce vendredi, puisque l'on retrouve désormais Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Il s'entretenait ce matin avec Jean-Pierre.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Nous sommes maintenant dans le carême depuis mercredi décembre, vous étiez avec nous. Chemin vers Pâques, Monseigneur, ça c'est quelque chose qui est important pour l'église diocésaine, l'église tout entière et pour les auditeurs de RCF.
En tout cas, c'est un temps important que le carême, une belle, je pense qu'il faut le prendre comme un beau temps dans notre année où nous sommes invités à resserrer un petit peu nos activités pour nous concentrer davantage sur le Christ, sur l'œuvre du salut, sur le besoin de conversion, le nôtre, celui du monde dans lequel nous sommes. Nous chrétiens, nous devons être conscients que nos efforts de conversion, nos efforts pour nous arracher à nos routines, pour nous tourner vers l'essentiel, bien, font progresser l'humanité tout entière.
Alors c'est vrai que ce soir, c'est la première conférence de carême que vous donnez, Monseigneur. Jésus, l'envoyé du Père, c'est à la maison Notre-Dame, rue Guillaume de Machaut à 20h, relayé par la chaîne YouTube du diocèse, et sur RCF, ce sera mardi prochain à 19h30. Première conférence donc ce soir.
Voilà, oui, écoutez, j'ai pris l'habitude depuis que je suis ici de proposer ces conférences qui sont plutôt des causeries de carême. C'est pas des grandes conférences avec un texte très élaboré, mais plutôt des causeries. L'année dernière, j'ai parlé de Jésus, un peu de certains aspects de son humanité. Jésus, c'est sa famille, Jésus, ses amis, Jésus est les femmes, Jésus est le royaume. Et cette année, donc, je voudrais parler un petit peu du lien entre Jésus et l'Église. Parce que quand on parle de l'Église, on parle toujours de la mission, et finalement on ne sait pas très bien ce que c'est que la mission. C'est un mot facile, alors au point de départ, mission, ça veut dire être envoyé. Recevoir une mission, c'est être envoyé, recevoir un envoi. Et donc Jésus se présente lui-même comme l'envoyé du Père. Et c'est ça que je voudrais essayer de regarder un peu, pour essayer de comprendre ce que ça nous dit de Jésus, du mystère de Dieu. Et puis de notre mystère à nous, de nous les êtres humains, à quoi, voilà, qui sommes-nous puisque Dieu vient vers nous, Dieu envoyé par Dieu.
Donc ce soir, 20h, Maison Notre-Dame à Reims, rue Guillaume de Machaut, 20h, avec YouTube Diocèse. Et sur RCF, ce sera mardi, en léger décalé, à partir de 19h30 jusqu'à 20h30. Il est vrai aussi que dimanche, il va y avoir un événement aussi à Tinqueux. De quoi s'agit-il, Monseigneur ?
Eh bien donc, c'est la célébration de l'appel décisif. Hein, depuis l'Antiquité, quand on a pris l'habitude, dès que les chrétiens ont pu vivre au grand jour, après l'édit de Constantin en 313, on a pris l'habitude que le carême marque l'ultime préparation de ceux qui voulaient devenir chrétiens et être baptisés dans la nuit de Pâques, donc participer à la mort de Jésus pour avoir part à sa résurrection. Et donc, le premier dimanche de carême, l'évêque appelle solennellement ceux-là pour que leur nom soit inscrit dans les registres des candidats, candidatus, c'est ceux qui sont vêtus de blanc ou ceux qui vont être vêtus de blanc, pour avoir part donc au baptême et à la vie en Dieu. D'ailleurs, vous voyez que tous les mots de nos élections, élection, ça veut dire choisir, être choisi, on est appelé et ensuite on est candidat. Et pendant le carême, on va célébrer des scrutins, c'est-à-dire des célébrations pendant lesquelles on met les catéchumènes se mettent sous le regard de Dieu. Donc voilà, tous les mots de notre tous nos mots du électoraux viennent en fait de ce choix des catéchumènes qui sont choisis par Dieu, appelés par lui, et puis qui ont part à la vie avec le Christ. Donc dimanche, au nom du Christ, j'appellerai solennellement les 72 catéchumènes de notre diocèse cette année pour qu'ils puissent être baptisés, recevoir les sacrements d'initiation chrétienne dans la nuit de Pâques. Et on fait ça dans l'Église entière, dans le monde entier. Alors nous avons la joie qu'ils sont plus nombreux que les années précédentes, beaucoup plus nombreux, et un peu partout en France on constate ce phénomène, même si les chiffres restent encore relativement modestes, on constate ce phénomène-là d'une forte augmentation du nombre des catéchumènes, et voilà, pour nous Église, c'est une exigence qui s'adresse à nous tous vieux chrétiens en quelque sorte, que l'Église soit plus propre, plus nette, plus jeune, débarrassée des petites rivalités, des petites médisances, des petites jalousies, que sais-je, pour pouvoir recevoir vraiment pleinement ces catéchumènes, ces nouveaux baptisés, comme des frères et des sœurs.
Dans ce carême, vous l'avez déjà évoqué, le jour des cendres, Monseigneur, des célébrations du pardon, qui prolongeait d'ailleurs la session de Ars. Vous aviez réfléchi aussi avec des évêques et puis des prêtres du diocèse et d'ailleurs. C'est aussi des moments importants que nous allons vivre.
Oui, en tout cas, je lance un grand appel à toutes nos auditrices, nos auditeurs, de profiter du sacrement du pardon, de s'approcher de ce sacrement pendant le temps du carême et en vue de Pâques. C'est recevoir le pardon du Seigneur et le célébrer, comme on le fait dans ce sacrement, c'est nous préparer à communier le jour de Pâques de manière plus forte, plus intense, et communier avec tous ceux qui, pour la première fois, vont avoir part au Christ et avec nous, donc, pour vivre de la charité de Dieu dans ce monde.
Si on regarde un peu l'agenda international, la semaine prochaine, et c'est un anniversaire, un triste anniversaire, le début de la guerre en Ukraine, c'est un événement, bien sûr, très important, avec des rebondissements à l'heure actuelle.
Voilà, donc cette guerre, en tout cas cette phase de la guerre, parce que pour les Ukrainiens, la guerre elle a commencé en 2014 avec l'invasion de la Crimée, mais en tout cas cette reprise de la guerre, cette invasion du territoire ukrainien lui-même va entrer dans sa troisième année. C'est quand même très douloureux de penser qu'aux portes de l'Europe, des hommes, des femmes meurent, des maisons sont détruites, des infrastructures sont détruites, et puis voilà, des hommes sont au combat tous les jours. Il y a quelque chose là d'un peu effrayant. On s'y est habitué, c'est une sorte de bruit à nos portes. On voit que sur le terrain, les choses n'ont pas l'air d'avancer beaucoup. Mais il faut que nous portions vraiment dans notre prière toujours nos frères et sœurs ukrainiens et demandons que se lèvent des artisans de paix. J'en profite pour signaler que le diocèse de Metz ouvre une neuvaine à Robert Schuman, dont ils espèrent la béatification, pour demander la paix. Et il y aura au mois de mai un bel événement entre différents diocèses français, allemands, luxembourgeois, etc. Autour de cette figure de Robert Schuman et de l'Europe. Ça prépare aussi les élections européennes, tout ça. Cette année, ces élections vont se passer avec, aux frontières de l'Europe, cette guerre.
Monseigneur, dans votre agenda, archevêque de Reims, bien sûr, président de la conférence des évêques, on le rappelle toujours, une session aussi avec les évêques de France prochainement.
Là, chaque année, ce que nous appelons la commission doctrinale, c'est un groupe d'évêques qui sont chargés de veiller un peu sur la qualité doctrinale des textes que nous pouvons produire, cette commission doctrinale organise une session de formation finalement pour les évêques sur des thèmes variés. Cette année, c'est sur la mission de sanctification. Donc c'est pour nous évêques un moment important, c'est un moment de nous retrouver un peu gratuitement, d'essayer d'aller un peu au fond de notre mission pastorale et de nous stimuler pour partir vraiment ou repartir du fond de ce que Dieu nous met entre nos mains pour le service du peuple de Dieu.
C'est à Venasque, dans le sud de la France.
Ça aura lieu à Venasque, à l'Institut Notre-Dame de Vie, et voilà, ça nous fait un petit tour vers le sud.
Monseigneur, également, bon, une panthéonisation qui s'annonce la semaine prochaine, vous serez à Paris également.
Oui, c'est un événement sans doute important pour la France, que quand on inscrit des gens au Panthéon, c'est toujours un message. Là, c'est le groupe autour de Manouchian. C'est l'idée que, enfin, ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans la résistance française, il y a eu beaucoup d'étrangers, ce qu'on appelle la main d'œuvre immigrée, qui ont participé à ce mouvement de résistance au nazisme. Et voilà, puissent-ils nous aider à résister à toute idéologie de haine.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous. À très bientôt sur RCF. Conférence ce soir à 20h.
Merci Jean-Pierre, merci à toutes et à tous. Bon vendredi de carême.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Après une année 2023 dynamique, la jeune chambre économique de Chalon-Agglo a bien l'intention de poursuivre son développement et d'augmenter son impact sur le territoire en permettant à de jeunes citoyens actifs d'agir tout en se développant. Nicolas Lemoine, nouveau président de la JCE de Chalon-Agglo, est avec Christopher.
Bonjour Nicolas Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau président de la JCE Chalon-Agglo, jeune chambre économique. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le studio de RCF Cœur de Champagne pour présenter ce nouveau bureau qui est, on peut dire, renouvelé tous les ans. On parlera également de la JCE de façon générale et les différentes actions que la JCE Chalon-Agglo mène au quotidien, j'ai envie de même dire tout au long de l'année. Nicolas Lemoine, donc un nouveau bureau a été élu il y a quelques semaines de cela.
Oui, tout à fait, oui, le 12 janvier lors de notre assemblée générale élective, j'ai été élu en tant que donc président de la jeune chambre économique de Chalon. Pour m'accompagner, donc Noémie Brisson, qui est donc l'immédiate passe-présidente 2023 et la vice-présidente chargée de la communication, et de Pierrick Aron, qui est donc mon secrétaire trésorier.
Présentez-vous Nicolas Lemoine justement en tant que nouveau président de la JCE Chalon-Agglo.
Alors, il faut savoir que moi je ne suis pas né à Chalon, je suis natif de Bretagne.
D'accord.
Je suis arrivé ici à Chalon à l'âge de 2 ans, donc j'ai malgré tout fait tout mon parcours scolaire ici à Chalon. Donc très attaché à ma Bretagne, mais je défends aussi beaucoup Chalon, donc c'était important pour moi de pouvoir m'engager au sein de la jeune chambre pour pouvoir mener des actions sur le territoire de Chalon-Champagne.
Mais c'est quelque chose que vous êtes très sensible et c'est la raison pour laquelle vous êtes engagé. Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons, quelqu'un qui vous a convaincu de rejoindre la JCE? Comment s'est fait justement ce démarrage dans l'aventure JCE, Nicolas Lemoine?
J'ai découvert le mouvement un petit peu par hasard lors d'une soirée découverte en février 2023. Et le feeling est tout de suite bien placé, ça m'a tout de suite bien plu. J'ai tout de suite pouvait avoir un parcours de formation, vraiment ouais. Grandir intérieurement à travers des actions et acquérir des compétences qu'on n'aurait pas pu avoir autrement en dehors de la jeune chambre.
Alors la journée découverte, on en parlera dans un court instant puisqu'il y aura une nouvelle journée dans les prochains jours. Alors profitons de votre présence en tant que nouveau président de la JCE Chalon-Agglo de rappeler un petit peu ce que c'est que la JCE, la jeune chambre économique de façon générale. Quelles sont les actions, les missions qu'on retrouve?
Alors les principales missions de la jeune chambre économique, faut savoir que c'est une association pour les gens de 18 à 40 ans. Qui est reconnu d'utilité publique puisque nous sommes rattachés à la Jeune Chambre économique française.
D'accord.
Donc le but pour nous en tant que jeune chambre, ce sont de réaliser des actions sur le territoire qui vont avoir un impact positif. Ces actions peuvent toucher à n'importe quel domaine, écologique, environnemental, économique également. Donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir un impact positif sur les territoires.
Et ensuite, éventuellement de transmettre, on en parlera dans un court instant, mais de transmettre à des structures, à des collectivités.
Tout à fait, exactement. C'est le but. Des actions Jeunes Chambres, comme par exemple les conteneurs à verre, sont des actions à la base issues de la Jeune Chambre et donc D'accord. ont été transmises et aujourd'hui on peut les retrouver partout sur le territoire.
Alors concernant la Champagne-Ardenne, on s'adresse à nos auditeurs champardonnais, ou combien de JCE on retrouve sur notre territoire ?
On retrouve dans la Marne, donc Chalon, Reims, Épernay. Oui. Nous avons la Jeune Chambre économique de Troyes dans l'Aube et la Jeune Chambre économique de en Ardennes.
Et ça vous arrive de collaborer ensemble à travers des projets, des actions ?
Très, très régulièrement, oui. On est amené déjà à se voir sur tous les événements nationaux et régionaux. Donc on se croise assez souvent. Et lorsque c'est nécessaire, peut-être faire des partenariats, partager les actions que nous menons en ce moment.
Alors justement, les actions, parlons-en du côté de la JCE Chalon Agglo avec vous, Nicolas Lemoine, le nouveau président de cette association locale, la Jeune Chambre économique de Chalon Agglo. Faisons un retour sur la dernière action que vous avez mise en place, on en a parlé d'ailleurs sur les ondes de RCF en région, c'est la fresque du climat avec ce partenariat que vous avez mis en place avec la mission locale de l'arrondissement de Chalon-Champagne. Quel retour faites-vous justement de cette belle opération ?
Tout à fait, ouais. On a organisé fin 2023, lors d'un samedi matin de la foire de Chalon, une fresque du climat qui a eu un réel succès. Effectivement, la phase de transmission après a été avec la mission locale. Donc on a eu un de nos membres qui est allé former directement quelqu'un de la mission locale pour qu'il puisse à son tour former plusieurs jeunes issus de la mission locale.
Et au niveau des jeunes, comment ça, quel retour vous avez ? Vous avez eu des retours justement des jeunes de la mission locale ?
Pas encore, non.
Pas encore, c'est encore trop tôt. Mais en tout cas, la transmission est en cours avec la mission locale dont vous êtes partenaire. Il y a eu d'autres actions que vous avez menées précédemment, notamment cette fameuse plaque mégot. Une des grandes actions que vous avez menées du côté de Chalon-Champagne, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que vous avez fait concrètement ?
Alors le principe, c'était vraiment de sensibiliser les gens par rapport aux mégots, mais aux déchets aussi en général, où tous les gens qui vont jeter leurs mégots et leurs déchets dans les plaques d'égout, dans les bouches d'égout, et qui polluent après tout ce qui est nappe phréatique et l'eau en général, l'eau potable.
Et la suite, justement, quelles sont les perspectives de la JCE Chalon Agglo pour cette nouvelle année 2024 ? Parce que forcément, la JCE ne s'arrête pas là. Comme on disait il y a quelques instants, elle crée des actions, des missions pour transmettre à d'autres structures, à des collectivités. Est-ce qu'il y a des nouvelles actions que vous êtes en train de mener ?
On est en train, effectivement, de travailler sur une nouvelle action qui va de nouveau parler et toucher donc des mégots. Notamment au niveau de la collecte, du recyclage et de la revalorisation après derrière des mégots.
Un enjeu qui est très très important aujourd'hui et donc vous allez de nouveau mener au quotidien du côté de la JCE Chalon Agglo. Alors on le disait il y a quelques instants, toutes ces actions, vous ne le faites pas seul, vous ne le faites pas uniquement avec les membres du bureau, il y a des jeunes autour de vous qui vous suivent, qui vous accompagnent au quotidien. C'est peut-être l'occasion justement de faire un petit clin d'œil. Vous qui avez rejoint justement la JCE tout récemment et qui est devenu président, eh bien de faire un appel à ces jeunes à rejoindre l'aventure JCE et d'être sensibilisé par eh bien ces gens, ces enjeux-là.
Tout à fait, oui. On organise le 22 février prochain une soirée de découverte, donc c'est le moment de venir découvrir le mouvement. En plus, ce sera une soirée plutôt sympa puisqu'on va faire ça à travers d'un escape game.
D'accord.
Donc de pouvoir venir vraiment découvrir toutes les phases, toute la partie formation, action, le point de vue national, international, les événements qu'on peut avoir au sein de la Jeune Chambre. Donc cet événement aura lieu donc au Caveau, donc à la Brasserie du Jard.
Et vous attendez combien de jeunes justement ? Pas forcément à cette journée découverte, mais pour pouvoir vous accompagner dans ces actions que vous menez, que vous créez.
Le but est vraiment de recruter alors des jeunes qui ont entre 18 et oui. 40 ans.
On peut rappeler l'âge, tout à fait.
Tout à fait. Il n'y a pas de nombre limite. Le but est par contre de pouvoir vraiment accompagner tous les nouveaux membres et les nouveaux adhérents qui vont nous rejoindre pour pouvoir vraiment les former et les accompagner tout au long de leur parcours Jeune Chambre.
Et jusqu'à présent, vous êtes à peu près combien au niveau de la JCE Chalon ?
Là, actuellement, on est un petit peu moins de 10.
Un peu moins de 10. Et donc, on espère forcément faire évoluer et maintenir cet effectif pour ces prochaines actions, notamment concernant les mégots dans les prochains mois. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, Nicolas Lemoine, on peut rappeler donc cette journée découverte le 22
22 février.
Le 22 février, c'est ça, tout à fait, au caveau, à la brasserie du Gers à Châlons-en-Champagne.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, nouveau président de la Jeune Chambre économique de Châlons-Aglo. On vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt dans les studios de RCF.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Nicolas et Christopher depuis les studios de RCF Cœur de Champagne. Au programme de cette année pour la JCE Châlons-Aglo, des actions, des formations, des rencontres avec les entreprises et acteurs du territoire et surtout de la convivialité. Quant à nous, on vous souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de RCF. Prenez soin de vous.